ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence, mardi 21 octobre. Je suis très heureuse de l'accueillir en studio. Aujourd'hui, on passe 60 minutes avec Laurent McKitchen et on va parler de sa vie, de ce qu'il a fait pendant ses 33 ans de militantisme. Il a fait des choses extraordinaires qui se poursuivent d'ailleurs. Alors, je vous donne un tout petit peu, je fais toujours ça au début de l'émission, je replace les gens, je fais la petite biographie en synthèse, bien évidemment, et la liste des prix. Il y en a beaucoup. Alors, pionnier de la lutte contre l'homophobie au Québec. Donc, il a présidé Gay Écoute de 82 à 2013. Il a aussi créé la Fondation Émergence et fondé la Journée internationale contre l'homophobie, qui est vite devenue la Journée internationale, parce que, bon, au début, c'était pas ça. Et donc, au niveau des prix, alors, il en a eu plusieurs, mesdames, messieurs. Donc, personnalité de l'année de 97 et 98 du magazine Gay RG, personnalité de l'année 99 du magazine Fugue, récipiendaire avec Gay Écoute du prix Régent Marié en 2001, une des personnalités, des 10 personnalités gays les plus influentes au Canada, et ça c'était selon le magazine Enjeu de Radio-Canada. Récipiendaire en 2013 du Grand Prix Arc-en-Ciel pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement de la condition homosexuelle décernée par la table de concertation des gays et lesbiennes du Québec. Je poursuis encore. Personnalité de la semaine du 13 mars 2005 du journal La Presse. Prix dans l'implication bénévole de l'année 2005 de la Chambre de commerce gay du Québec. Prix Droits et libertés 2007 remis par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Le Devoir, c'est moi, journal Le Devoir, 14 juin 2010. Il a été personnalité retenue pour souligner les 100 ans du journal. Prix Claude Mayotte en juillet 2010 remis par l'équipe de Montréal pour souligner l'excellence de la campagne de lutte contre l'homophobie en 2010 intitulée « Parler du silence » dédiée au monde du sport. Et puis, prix de la justice du Québec en mars 2010, remis par le ministre de la Justice, procureur général du Québec, pour son engagement à promouvoir les valeurs de justice et pour son implication et son travail pour l'avancement des droits et des personnes homosexuelles et d'autres diversités sexuelles. Alors, bonjour Laurent McKitchen. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tous ces prix qu'on vous a donnés?
C'est la première fois que j'entends tous ces prix énoncés de cette façon-là. Et je vous avoue que ça me rappelle que ça fait plusieurs années que je suis impliqué et que je fais du bénévolat. Et évidemment, les reconnaissances, je pense que c'est beaucoup le moteur de l'engagement bénévole. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Et toutes ces reconnaissances-là, pour moi, ont été... une motivation.
Alors, vous étiez pas destiné à ça, quoique dans une petite ville. Quel était votre milieu? Où habitiez-vous? Étiez-vous un enfant seul? Racontez-moi un petit peu votre enfance.
Moi, je suis né à Thetford Mines, la ville minière dans les cantons de l'Est, où maintenant on bannit l'amiante, mais je suis né là, j'ai été élevé là. Dans une famille, on est 4 enfants. J'ai 2 frères et une sœur. Et une famille d'ouvriers. Mon père était un ouvrier de la construction. Donc, j'ai évolué dans ce milieu-là jusqu'à l'adolescence. Et après ça, pour sortir de Thetford Mines pour aller faire des études.
Comment c'était votre vie tout en sachant que vous étiez homosexuel? Est-ce que vous pouviez le dire? Parce que quand même, il faut dire, c'est 50 ans de lutte, hein? 33 ans de militantisme, mais il y a 50 ans en arrière, c'était complètement autre chose. Et vous, comment c'était à l'époque?
Moi, lorsque j'étais jeune adulte, quand j'ai pris conscience de mon orientation sexuelle, c'est assez tôt que je savais, sans trop comprendre qu'est-ce que c'était, que j'avais compris, en tout cas, qu'est-ce que pouvait signifier l'orientation sexuelle. Mais j'ai vécu dans une période où on mettait les homosexuels en prison. Quand j'étais jeune, on mettait les homosexuels en prison.
Taxés de criminels aussi. Il y avait également une maladie mentale. On disait que c'était épouvantable, ça.
Tout à fait. Donc, j'ai vécu, moi, mon adolescence jeune adulte dans un contexte où on considérait que les homosexuels étaient des criminels et des malades mentaux. Donc, quand on est criminel, sens de la société, on ne parle pas de ce qu'on est. Hein. Donc, moi, j'ai vécu dans le silence pendant de très, très nombreuses années. Ça a été très difficile pour moi. J'ai eu des années très, très sombres, difficiles. J'ai toujours réussi à passer à travers parce que j'avais beaucoup d'amis, évidemment des amis hétérosexuels, et j'étais bien entouré au niveau de mes amis. Mais j'avais toujours ce manque, hein, parce que je pense que on a besoin d'amour et d'affection. C'est bien beau d'avoir plein d'amis puis sortir. J'allais dans les parties toutes les semaines, j'allais faire du ski, je m'amusais beaucoup. Mais je ressentais toujours cette solitude d'être seul, parce que mes amis, eux, souvent avaient des blondes, avaient des gens qui les accompagnaient. Donc, pour moi, je ressentais très, très fortement cette solitude-là.
Est-ce que vous pouvez en parler à vos parents? Est-ce que ça a été aussi ce mur de silence où vous avez pu discuter ou... vous étiez obligé de vous réfugier avec vos amis?
À l'époque, on ne pouvait pas discuter de ça avec nos parents parce qu'on était comme des malades mentaux. On était rejetés par la société. Les quelques personnes... Moi, j'avais une image, il y avait un homosexuel dans la région de Thetford Mines qui se faisait arrêter par la police et chaque fois qu'il mettait le pied dans la ville, la police allait le reconduire à l'extérieur de la ville. Donc, il n'avait pas le droit d'être dans la ville. Donc, on ne pouvait pas parler de ces choses-là. Et comment j'aurais voulu parler de ça avec mes parents, je pense qu'ils n'auraient pas pu comprendre qu'est-ce que c'était à l'époque. Donc, il a fallu vivre ça de façon... Et je suis pas le seul. Hein. Beaucoup de gens dans ma situation ont choisi de se marier malgré qu'ils étaient homosexuels, de fonder des familles. Moi, je n'étais pas capable de faire ça. J'avais pas le désir sexuel, évidemment, mais principalement, je me voyais pas fonder une famille. Je me disais, je pourrais pas être capable de rendre une femme heureuse. Si j'ai des enfants, est-ce que je vais être capable de les rendre heureuse? Et ça m'a toujours freiné. Donc, je suis resté seul une bonne période de ma vie, jusqu'à l'âge de 27 ans, avant que je commence vraiment à avoir une vie... homosexuel.
Alors, on retourne en arrière. Est-ce que vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire à l'école? Comment ça se passait? Est-ce que vous étiez bon à l'école? Est-ce que vous aviez envie de... Vous êtes dit, bon, mais moi, je vais aller dans l'éducation. Est-ce que c'est venu tout de suite parce que vous avez aidé énormément de jeunes comme éducateur? Mais est-ce que c'est venu tout de suite, cette carrière-là?
Non, je savais pas. Quand j'étais jeune, je ne savais vraiment pas où aller. Je réussissais bien à l'école, oui, j'avais des bonnes notes, mais ce n'était pas clair pour moi qu'est-ce que je voulais faire, même que quand j'ai commencé mes études, je suis allé à la faculté de commerce à l'Université de Sherbrooke parce que je sentais un certain intérêt pour ce monde-là, pour finalement me retrouver en éducation spécialisée, où j'ai travaillé avec les jeunes délinquants.
C'est ça. Dans l'éducation spécialisée, là, vous aviez... Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que vous trouvez votre voie pour aider l'autre?
Bien, je pense que probablement hérité de ma famille. Ma mère, mon père étaient des gens très, très généreux, qui s'occupaient de tous les voisins, des neveux, des nièces qui étaient en difficulté. C'était un peu le refuge chez nous. Ma mère aidait tout le monde. Donc, je pense que j'ai été élevé dans ce climat d'entraide. Probablement que ça a dû m'influencer. Après avoir fait les études, quand j'ai commencé mon premier emploi, je travaillais avec des jeunes délinquants. Et moi, j'en avais 22 ans et il y avait des jeunes de 18, 19 ans. Il n'y avait pas une grande différence d'âge pour moi qui travaillait, qui intervenait auprès des jeunes. Et ça a été une expérience très, très positive, agréable pour moi. Mais je ne suis pas resté très longtemps parce que je trouvais ça vraiment difficile. Difficile aussi en raison de mon orientation sexuelle parce qu'à l'époque où je travaillais là, c'était encore interdit. L'homosexualité était interdite. Donc, je travaillais avec des jeunes qui avaient pratiquement mon âge et je devais toujours cacher mon orientation sexuelle. C'était toujours difficile, même avec la direction qui soupçonnait tout le monde d'être homosexuel. Ça fait que j'ai fait à peu près 2 ans et demi après ça. Je suis allé plus dans l'administration parce que je travaillais déjà pour le gouvernement du Québec. Donc, j'ai changé de ligne, comme on dit, pour aller travailler au niveau de la sécurité du revenu. Et là, j'ai fait une carrière de cadre au niveau de la sécurité
du revenu. Au niveau du gouvernement. Pendant combien d'années ça a duré?
J'ai été comme 35 ans au niveau du gouvernement avec plusieurs postes de cadre de la sécurité du revenu. Je suis allé après à l'Office du service de garde à l'enfance. C'était le développement du réseau des garderies au Québec. Et j'ai eu la chance de connaître. J'ai été directeur général de l'administration pour le déploiement du réseau des garderies lorsque la loi, première loi, est entrée en vigueur. Donc, j'ai participé à ça. Ça a été une belle réalisation pour moi. De là, je suis allé comme vice-président pour la mise sur pied du tribunal pour les accidents de travail. Donc, je participais encore à mettre des choses sur pied. Par la suite, j'ai été comme président du Conseil de la justice administrative où j'ai mis encore un organisme sur pied. Donc, ça a été pour moi souvent des défis là, de partir, mettre des organisations sur pied. Parce qu'on dit dans la fonction publique que les gens ne travaillent pas. Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé fort et que je peux dire que la grande majorité des employés de la fonction publique sont honnêtes, consciencieux, qui travaillent fort. Il y en a qui ne travaillent pas comme partout ailleurs. Je fais toujours des faces en disant il y a des fonctionnaires qui fonctionnent, puis il y a ceux qui ne fonctionnent pas.
Alors, on fait une pause. Vous savez que vous choisissez vos chansons. Vous avez choisi donc Barbara Streisand, mais Memory. Pourquoi cette chanson?
Je suis allé à Londres et j'ai vu la comédie musicale Cats. Et cette pièce-là, particulièrement, chaque fois que je l'entends encore à la radio, ça me touche. Je suis très ému à chaque fois.
On l'écoute.
Her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in.
Nous sommes en
C'est la plus belle chanson au monde.
Laurent McCutcheon, oui.
Pour moi, c'est la plus belle chanson
au
monde.
Oui.
Ah, c'est incroyable.
Ça, on dirait que vous écoutiez ça, vous aviez des frissons.
Oui, encore. Je l'entends régulièrement à la radio, partout, et à chaque fois, j'ai toujours des frissons. Et je pense que cette chanson ne vieillira jamais, hein, parce qu'elle a plusieurs années et elle est encore extraordinaire.
Est-ce qu'on peut dire que ce qui est beau et vrai ne vieillit pas?
Oui, sans doute.
Le militantisme, ça commence chez vous. À partir de quand vous sentez qu'il y a des injustices sociales, des injustices où vous voulez vraiment participer, mettre la main à la pâte, dire « ça ne se peut pas que ça se fasse comme ça dans notre société ». Date, vous mettez ça quand?
J'ai rencontré mon conjoint en 1972. Je suis toujours avec lui, d'ailleurs.
Ah. Et ça extraordinaire, ça.
Oui, ça fait 42 ans. Et ça a été le début pour moi de l'éveil là, de cette sensibilité, ce besoin d'être capable d'en parler. Et dès un emploi que j'ai eu en 73 à Sherbrooke, j'étais directeur régional pour la sécurité du revenu. Et je ne sais pas comment ça s'est présenté, mais je l'ai dit publiquement. Déjà,
vous étiez dans la rue. J'ai lu quelques notes, ma recherchiste Christiane m'a apporté. Vous étiez dans la rue avec un masque, vous avez fait une marche. Est-ce que c'est cette marche-là où vous avez...
Tout de suite après, là, comme l'année suivante, il y avait une marche dans les rues de Montréal. C'est pas moi qui l'avais organisée. Il y avait une association qui s'appelait Association pour la défense des droits des gays du Québec qui avait été mise sur pied. C'était pas mal les débuts. Ils avaient organisé une marche et je vivais à ce moment-là à la campagne dans la région de Granby-Bromont. Et mon conjoint et moi, on avait dit « on va y aller ». Donc, on est venu faire la marche. On était moins de 200 personnes et on se faisait injurier de façon incroyable.
C'est fou.
Et tout le monde, on essayait d'un peu de se protéger parce qu'on avait des pancartes. On mettait un peu la pancarte vis-à-vis le visage pour un peu être pas trop reconnu. Vous savez qu'à ce moment-là, c'était pas facile. Donc ça a été la première sortie publique comme ça.
Mais la première sortie, avant qu'elle soit publique dans comme une manifestation, à Sherbrooke, chez vous, vous le dites de quelle manière et comment c'est reçu par la famille, par votre entourage, par le bureau, les gens du bureau, c'est reçu comment?
Bien, j'avais la chance d'être le patron, hein, parce que j'étais directeur régional. J'avais une centaine d'employés dans différents bureaux. Et c'est difficile d'aller affronter le patron. Je pense que j'étais dans une position un peu...
Affronter vos peurs, les vôtres!
J'étais un peu privilégié. Hein, j'étais privilégié par rapport aux employés. Donc, ça s'est passé assez bien. Et pour me rendre compte que finalement... De façon régulière, il y a toujours quelqu'un qui arrivait puis qui venait me voir en disant « Tu sais, Laurent, moi aussi, Laurent. »
Ah oui,
et
puis, les confidences, ça y allait.
Et les confidences venaient. Et il y avait les confidences, mais ça me permettait aussi de me créer un peu un noyau d'amitié. Et c'était sorti aussi dans les médias à Sherbrooke. J'avais quand même un emploi de responsabilité. Et je l'ai assumé sans trop de difficultés.
Comment vous êtes senti après?
Bien, je pense que quand on n'a plus à se cacher, là, puis ça, je pense que c'est un message que je pourrais dire, c'est vrai pour les homosexuels ou d'autres personnes qui vivent en désaccord avec eux-mêmes, je pense que c'est une vie inconfortable. Et pour moi, ça a été une libération. Et j'invite tous les homosexuels qui ont de la difficulté, il ne faut pas rester dans le placard, c'est pas confortable, un placard. Et il faut être capable... Il faut choisir à qui on le dit, il faut choisir le moment où on le dit, mesurer les avantages, les inconvénients. Quand j'étais à Gay Écoute, dans les premières années où je faisais de l'écoute avant d'être dans l'administration, des fois je disais à des jeunes qui me disaient « Est-ce que je dois le dire à mes parents? » Je disais « Il faut que tu mesures avant de le dire à tes parents. Si tu penses que tes parents ne le prendront pas, qu'ils vont te mettre à la porte. »
Qui arrive souvent, d'ailleurs, qui est vraiment juste.
Ça arrive encore, ça arrivait plus autrefois. Ouais, donc, il faut mesurer les avantages et les inconvénients. Un jeune comme ça, je disais, attends un peu, puis quand tu seras plus autonome, à ce moment-là, tu pourras le faire. Mais de façon générale, je pense que c'est une libération.
Mm-hmm. Donc, vous sortez dans la rue, Et là, les injustices... Bon, au niveau politique, c'est en 69, finalement. Il faut dire aux gens que c'est en 69 que...
La décriminalisation.
La décriminalisation. Et ça fait pas si longtemps. Ça, c'était sous le gouvernement Trudeau.
Oui.
Parce que finalement, on l'enlève. Et ça, c'est... Ouh!
Ben, là, c'est
légalement, le... c'est un grand pas de fait, là.
Ben, c'est le début. Pour moi, c'est, je dis que c'est l'an 1 pour les personnes homosexuelles au Canada.
Ouais, ouais.
Ce qui est un
c'est
petit
la
peu...
naissance d'une c'est reconnaissance.
La naissance. Oui, parce qu'avant...
En 1969, oui.
Quand on n'a pas le droit, on ne peut pas manifester, on ne peut pas être dans la rue, on ne peut pas faire rien. C'était faut dire que c'est les relations homosexuelles qui étaient interdites. Si on disait qu'on était homosexuel, on ne nous mettait pas en prison, mais on n'avait pas le droit d'avoir une vie, finalement, homosexuelle. Donc ça a été vraiment le point de départ de la libération. Et ce qui est cocasse, c'est que... Dans le mouvement gay, on réfère toujours à Stonewall aux États-Unis. Mm-hmm. Et Stonewall aux États-Unis, c'est le mois de juin 1969. Puis au Canada, nous, c'est juin 1969. C'est une coïncidence, mm-hmm. mais c'est une belle coïncidence, je pense, sur le plan historique, parce qu'on a une histoire, nous aussi, au Canada.
Mm-hmm. On a aussi des fiertés, on va en parler plus tard, parce que quand même, on est un des pays qui a souhaité le mouvement et la réunion des couples en 2001, le mariage civil. On est vraiment en avance par rapport à d'autres pays. On va en parler un tout petit peu plus tard. Donc là, il y a aussi bon, la reconnaissance qui se fait. Et vous, vous arrivez à vous dire, ben, il y a dans l'ordre Gaycoute, il y a des gens qui sont dans la peine de ne pouvoir le dire, restent dans l'omerta, dans un silence... Et là, vous voulez bâtir des choses. Comment ça se passe?
Je me suis engagé à Gaycoute. C'est pas moi qui ai mis Gaycoute sur pied. Ça venait de naître avec quelques bénévoles sans moyens, là, aucun. Moi, je suis arrivé en 1982 et, comme écoutant bénévole pour écouter les personnes qui communiquaient. Et en peu de temps, les bénévoles m'ont demandé de prendre la responsabilité. Donc, j'ai pris la responsabilité de Gaycoute et je suis très heureux d'avoir réussi à travailler avec tous les bénévoles qui étaient là pour construire vraiment une organisation qui existe encore aujourd'hui, qui est très mm-hmm. reconnue au Québec.
20 000 appels en ce moment. 20 000 appels, Gaycoute, c'est incroyable.
Oui, avec maintenant, il y a beaucoup de transformations parce qu'il y a toute la question des chats, clavardage et courrier électronique, donc toutes ces interventions-là parce que le paysage... a changé. Mais donc, j'ai pris cette responsabilité-là et j'ai développé Gaycoute avec tous les gens de l'entourage qui est impliqué. Au début, Gaycoute, moi, je me souviens d'avoir personnellement payé la ligne téléphonique parce que ça nous prenait un téléphone.
Oui, quand même. Hein?
Quand même pour répondre au téléphone.
C'est ça.
Et on n'avait pas de subvention, on n'avait rien. Donc, c'était les bénévoles, on passait le chapeau. Moi, souvent, j'ai payé le téléphone et payé les dépenses, les frais d'administration. Et on avait un tout petit local qui était, quand on parle de placard, là, c'en était un vrai
C'était minuscule, un micro-bureau, comme on dit.
Oui, oui. Et on écoutait trois soirs par semaine. Et maintenant, Gaycoute, c'est une organisation où il y a des professionnels qui écoutent. Il y a des bénévoles aussi qui se joignent en soirée. Et c'est ouvert de 8 heures le matin jusqu'à minuit le soir, 365 jours par année. Donc, c'est vraiment un service essentiel, reconnu par le gouvernement et subventionné maintenant.
Qu'est-ce que, si on va dans le passé encore, qu'est-ce que vous retenez de certaines conversations que vous avez eues quand vous avez fait du bénévolat, quand vous avez pris vous-même l'appel et qui a fait en sorte que vous avez voulu poursuivre dans votre militantisme?
Ce qui revient tout le temps et qui était le plus difficile, premièrement, c'est la découverte de son orientation sexuelle. On se questionne, il y a des gens qui téléphonent puis ils ne comprennent pas ce qui se passe. Après ça, quand on le découvre, il faut l'assumer. Et ce qui revient de façon régulière dans les conversations, c'est toujours la solitude, l'isolement, le rejet, de façon générale. Donc, j'ai entendu beaucoup de personnes qui souffraient de cette solitude. On a parlé tout à l'heure de jeunes qui étaient rejetés par leurs parents. Beaucoup de personnes qui, dans leur milieu de travail, se sont abstenues pendant des années de dire qu'ils étaient homosexuels, de peur que la carrière soit compromise. Il y a beaucoup d'homosexuels, vous savez, qu'ils vont dans les bars les week-ends et qu'ils mettent la cravate le lundi matin, qu'ils l'enlèvent le vendredi soir, puis qu'ils vont dans les bars. Mais dans le milieu de travail, ils ne sont pas gays. Ça existe encore beaucoup parce que plusieurs appréhendent que ça puisse être difficile pour leur carrière.
Ou des familles brisées dont vous parlez tout à l'heure, qu'ils n'avaient pas le choix de faire semblant. Et puis finalement, c'est plus fort qu'eux. Ils sont trop malheureux et ils sont obligés de se reconstruire, mais avec leur propre voie du début, finalement.
Mais ça a changé beaucoup, énormément. La chose qui n'a pas changé avec les années, parce que j'ai continué d'écouter longtemps, le processus d'acceptation de son orientation sexuelle est toujours le même. Hein. On le découvre, on en prend conscience, on doit l'accepter, puis on doit l'assumer. Mm-hmm. Autrefois, ça pouvait prendre des années, des décennies, et plusieurs personnes n'y arrivaient pas. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes prennent conscience de leur orientation sexuelle et ça va très, très vite. Les étapes vont vite. Ils disent aux parents, ils disent à l'école, commencent à l'assumer. Donc, les étapes sont les mêmes, mais c'est beaucoup plus rapide et c'est tant mieux, c'est ce qu'on souhaitait.
Et moins douloureux, donc, si c'est plus rapide.
Oui.
On fait une petite pause musicale, on revient tout de suite après. Publicitaire, mesdames, messieurs, on se retrouve tout de suite après.
Gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Laurent McCutcheon est avec moi en studio. On poursuit notre militantisme ensemble, dans l'ordre finalement. Alors, donc, il y a eu Gay Écoute et puis, évidemment, la Fondation Émergence qui fait un travail fabuleux encore aujourd'hui. Mais racontez-moi les débuts de comment ça a débuté.
Bon, mon implication à Gay Écoute, à voir toutes les problématiques, m'a sensibilisé évidemment. Mais avec l'évolution de la société, je voyais arriver aussi une société qui était capable de s'ouvrir et je me suis dit que, bon, on donne des services à Gay Écoute, mais la problématique, c'est l'homophobie. Hein, parce qu'il n'y avait pas d'homophobie dans la société, il n'y aurait pas de problème avec, pour
tout,
les personnes
tout irait
homosexuelles.
Très bien, ouais.
Hein? Donc, j'ai voulu qu'on mette sur pied la Fondation Émergence, dont la mission, c'est de faire de l'éducation, de la sensibilisation sur les réalités homosexuelles, la diversité sexuelle de façon générale. Donc, c'est la mission de la Fondation Émergence. Et comme activité principale, après ça, on a mis sur pied la journée de lutte contre l'homophobie, mm-hmm. qui est une activité de sensibilisation.
Qui est internationale maintenant?
Qui est devenue internationale. Mm-hmm. Plein de pays, le 17 mai, célèbre... la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, mais c'est parti de chez nous, ici, en 2003.
Ah! Alors, on a une fierté, hein?
Ben
c'est
oui,
parti, c'est
oui.
parti de chez nous.
Oui.
Mais il faudrait peut-être rappeler aux auditeurs pourquoi le 17 mai, cette date-là, parce qu'elle est extrêmement importante,
oui.
cette date.
Nous, au Québec, on avait d'abord commencé avec le début du mois de mai, le premier mercredi de mai, de juin, pardon, et nos amis français voulaient que ce soit le mois de mai. pour les raisons de scolarité dans les écoles. Et on trouvait que leur idée était correcte aussi. Donc, ils ont proposé le 17 mai. Donc, le choix du 17 mai, c'est une proposition de nos amis français qu'on s'est ralliés en disant « oui, c'est une bonne idée ». Et c'est le 17 mai 1990 que l'Organisation mondiale de la santé a rayé de la liste des maladies mentales l'homosexualité. Donc, 1990, c'est pas très vieux.
C'est vraiment pas vieux. Donc, c'est très important de le dire parce que, bon, c'est toujours la même date, puis il faut que ça soit relié à quelque chose d'important. Et maintenant, ça va être gravé dans la mémoire des
gens.
C'est
ça, maintenant, c'est significatif.
C'est significatif. Bon, toujours à se battre aussi avec les religions. Hein? C'est pas évident. J'ai l'impression que c'est ceux qui ont fait le plus de tort. C'est pas une impression, mais toujours est-il que même le pape, en 2014, ouvre une porte. Sa déclaration dernièrement, qu'il a dit qu'il reconnaissait une douance aux homosexuels, une douance, mais il l'a dite sur la pointe des pieds. Et il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Comment vous réagissez aux propos du pape?
De façon générale, je pense que nos principaux adversaires à la reconnaissance de nos droits, à l'évolution de l'orientation sexuelle à travers le monde, ce sont les religions. Et la religion catholique, évidemment, n'accepte pas toute la question de l'homosexualité. C'est étonnant qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Récemment, bon, on a vu une petite ouverture au Vatican, puis j'ai eu l'impression qu'on faisait une ouverture, puis qu'à la fin du congrès, le synode, hein, bon, à la fin du synode, j'ai l'impression qu'on a refermé la porte, hein, parce qu'il n'y avait pas, fallait qu'il y ait les deux tiers de tous les évêques qui étaient là souscrivent à l'idée, et il y avait une majorité, mais il n'y avait pas les deux tiers, donc on a comme repoussé l'idée. Par contre, je pense qu'on est en train de semer l'idée de réfléchir à cette question-là, alors qu'avant, elle était condamnée sans qu'on y pense.
Donc là, il y a une ouverture avec ce pape-là, mais l'empreinte n'est pas assez forte. Et puis encore, les évêques qui, eux, ont l'air encore assez fermés.
Oui, moi, je pense que l'ensemble des évêques ne sont pas prêts, même si le pape, lui, semble vouloir un petit peu s'ouvrir. Je pense que ça va prendre encore quelques années avant qu'on y arrive. Mais vous savez, la position de l'Église catholique par rapport à l'homosexualité, c'est la même que pour toutes les autres questions. Il n'y a pas de femmes encore qui ont accès.
Mais non.
On est contre l'avortement, on est contre la contraception.
Porte de condom et tout ça.
L'Église catholique a une grande liste de condamnations. Mm-hmm. Et les homosexuels ont fait partie de la liste. Moi, je ne m'en fais pas trop avec ça en me disant, bon... Si on prenait toutes les personnes, là, puis qu'on les faisait passer dans le filtre des exigences de l'Église catholique, d'après moi, au Québec, il n'y a personne qui passe.
Il n'y a personne qui irait là dans ce filtre-là.
Il reste peut-être les curés et les curés qui n'ont jamais eu de relations sexuelles dans leur vie.
Ou certains évêques. Oui, c'est ça. Ou certains évêques dont vous parliez tout à l'heure.
Ils ne seraient pas nombreux.
Non. Alors, c'est pour ça qu'en 2010, vous faites beaucoup parler de vous. Vous allez dans une église et vous prononcez une homélie. Et qu'est-ce que vous dites? J'aurais tellement aimé être là cette journée-là. Parce que ça a l'air que c'était quelque chose, mais j'aime rappeler aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que vous avez dit, parce que c'est quand même frondeur, ça.
Bien, la façon que ça s'est produit, moi, une homélie, je ne savais pas trop ce que c'était, parce que ça fait longtemps que l'Église catholique m'a rejeté. Je me dis, bon, si on me rejette, je n'ai pas envie d'y aller, hein? Tant pis. Donc. Et j'ai reçu une invitation de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, ici à Montréal, pour aller faire une homélie. Et je ne savais pas trop quoi faire. C'est que j'ai fait une lettre à Jésus. Et l'église était bondée, était pleine. Et je m'adressais à Jésus pour lui demander pourquoi il nous condamnait, pourquoi c'est contraire au grand commandement de l'amour et de la charité, pourquoi les homosexuels sont rejetés. Donc, j'avais comme un dialogue dans ma lettre avec Jésus. Et ça a eu beaucoup de répercussions. Ça a été très, très apprécié, à tel point que j'en ai refait deux, trois dans des paroisses. Enfin, je me disais, bon, Saint-Pierre-Apôtre, on est dans le village gay. Mais j'ai fait des paroisses au nord de Montréal, des petites paroisses. J'ai été accueilli de façon extraordinaire. Mmh. Le curé m'a invité à donner la communion, tous les gens. Et encore là, après la messe, il y avait plein de parents qui venaient me dire, « Ah, vous savez, j'ai un fils, j'ai une fille, j'ai un ami. » Tout le monde en a autour de soi. Ceux qui n'en ont pas, là, c'est parce que leurs yeux ne sont pas ouverts.
Non.
Il y en a partout.
Et leurs oreilles aussi.
Et les oreilles aussi.
Et les oreilles.
Parce que tout le monde en a autour de soi.
Alors, beaucoup de travail à faire. Chez nous, ça s'en vient bien. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore des gens qui sont isolés, qui pleurent dans leur coin. Mais si on se compare, on se console. En France, c'est épouvantable.
Oh.
Je veux dire, il y a encore 50 000 personnes qui sont sorties dans la rue.
Oui.
On dirait qu'ils sont pour le mariage gay, mais aussi c'est fou, là. C'est complètement divisé. Ils sont complètement en retard, mais en retard, ça vient tout juste de passer pour le mariage. Et ils sortent en grand nombre. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça?
Moi, je vais à Paris à tous les ans. Je m'installe, je vis en parisien. Là. Je ne vais pas là pour aller juste dans les musées et tout. Là. Je m'installe, on loue un appartement et on vit la vie quotidienne. On a des copains, des gens qu'on voit à Paris. Et je n'arrive pas vraiment à comprendre le comportement des Français par rapport à la question de l'homosexualité. Et mon explication personnelle, c'est que quand on parle avec des Français, ils s'identifient. Moi, je suis de gauche, moi, je suis de droite. Ici, on ne fait pas ça, s'identifier. On a des valeurs et ils peuvent être des fois à la gauche, des fois à la droite. Mais les Français ont créé une scission au sein de leur société entre la gauche et la droite. Et là, toute la droite, parce qu'actuellement, le gouvernement français n'est pas populaire. Donc, tous les gens d'opposition s'en vont vers la droite.
Oui, ils vont même dans l'extrême droite, là. C'est dangereux.
Et la droite est contre l'homosexualité. Donc, on manifeste contre l'homosexualité.
Alors ils se prennent un prétexte, vous pensez? Est-ce que c'est un prétexte pour dire on est contre notre gouvernement et on choisit...
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Probablement qu'il y a aussi des gens qui sont contre l'idée du mariage. D'ailleurs, c'est étonnant, parce que les Français, ils n'ont pas parlé du mariage gay, ils parlent du mariage pour tous.
Oui, c'est ça.
Moi, je pense que les choses, il faut les nommer.
Ben oui.
Hein, le mariage pour tous, c'est qui tous? Donc, on voulait viser des homosexuels. Déjà, au départ, si on avait parlé directement, puis essayer de rejoindre les gens en disant, vous en avez dans votre famille, vous avez des amis, c'est ça qu'on a fait, nous, ici, hein. Et ce qu'on a fait...
Il n'y a pas eu de révolution, mais aucune. Je dis révolution, le mot est gros, mais il n'y a personne qui est sorti en 2010. À moins que j'ai raté quelque chose dans l'information.
Ici, nous, au Québec...
Ça s'est bien passé, non?
La première fois, ça a été l'union civile, avant le mariage. Et l'union civile, tous les partis politiques, à l'unanimité, l'ont adopté. Et on avait fait un travail de lobby préalable. Et moi, j'y étais, là, je participais à rencontrer. J'ai rencontré presque tous les politiciens, les chefs de parti. J'ai été dans des caucus, dans des congrès, faire des présentations, expliquer qu'est-ce que c'était. Et finalement, quand c'est arrivé à l'Assemblée nationale, ça a été un vote unanime.
Et les rues étaient tranquilles.
C'était un peu différent au fédéral avec le mariage, par exemple.
Ça embrasse un peu plus, là.
En 2005, là, nos bons curés, évêques, ils sont sortis et ont fait de la misère à Jean Chrétien, à cette époque. Ça a été plus difficile au niveau fédéral.
Alors, on fait une pause musicale et cette fois-ci, une autre chanson que vous avez choisie, Jacques Brel, Les Vieux, pourquoi?
Les vieux, évidemment, je m'approche tranquillement de cette période-là de la vie et cette chanson, les paroles sont très, très touchantes.
On l'écoute.
Oui.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Alors vous vous rapprochez de ça, vous disiez, parce que la retraite,
moi j'y suis, ça y est,
vous êtes en plein dans la retraite.
Et évidemment, un jour je vais partir aussi, mais je suis très très touché parce que j'ai un conjoint depuis 42 ans, on vit ensemble, et quand Brel, à la fin de la chanson, dit « celui des deux qui restera se retrouvera en enfer », moi je pense que c'est vrai.
Oui.
C'est celui des deux qui part, le premier qui est le plus chanceux d'après moi.
Et moi, j'ai connu mes parents. De vivre avec les souvenirs de l'autre imprégnés dans la maison,
de la personne qu'on... Mais ouais, de vivre seul quand on a passé sa vie avec une autre personne, je pense que c'est ça qui veut dire l'enfant. J'avais hésité entre celle-là et celle de Clémence Desrochers, les deux vieilles, qui étaient aussi extraordinaires.
Une aussi belle poésie, Clémence Desrochers.
Oui, tout à fait.
Avec un père, comme elle a eu aussi ses livres, une grande inspiration. On parlait de la France. Bon, il y a beaucoup, d'ailleurs, de Français qui immigrent pour ça ici au Québec et depuis des années. Énormément pour vivre bien, parce que c'est inconfortable là-bas. L'Afrique aussi, ça va, c'est dur. C'est vraiment à dose homéopathique, des combats pour une reconnaissance de l'homosexualité. Et évidemment, le Moyen-Orient, c'est épouvantable. C'est dur, là.
Mais vous savez, l'homosexualité à travers le monde, je pense que la norme, c'est le rejet. C'est l'exception des pays comme nous, ici. Les États-Unis commencent à progresser beaucoup, mais c'est les tribunaux qui font progresser. Et de façon large, à l'ensemble de la planète, où il y a des grandes populations, en Chine, en Inde, en Afrique, l'homosexualité... ça n'existe pas et c'est réprimé. Il y a des pays qui condamnent les homosexuels à mort, et il y a 78 pays à travers le monde où l'homosexualité est interdite et prohibée. Donc, on est très chanceux. Moi, je le dis souvent, merci à tous nos Québécois, Québécoises de nous accueillir de cette façon-là. On est privilégiés de vivre ici.
33 ans de combat, vous avez pris votre retraite. Est-ce qu'il y a des moments où il y a eu du découragement? Des moments où c'était plus difficile? Vous parliez que vous n'aviez pas eu de subvention. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, oh, je me bats et je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver?
Bien, les premières années, évidemment, il n'y avait pas d'aide financière. Donc, on était toujours à la recherche de financement. Le bénévolat, ça s'est bien passé. L'engagement dans la communauté, il y a eu beaucoup d'organisations. Et il y a eu une période dans l'avancement de nos droits où les groupes communautaires se tenaient, il y avait un objectif commun. Donc, ça s'est bien passé. Je dirais que maintenant, on a une égalité de droits. Au Québec, on a une politique de lutte contre l'homophobie, d'ailleurs, que j'ai initié au départ. Et maintenant, évidemment, je pense que nos communautés font ce que toutes les autres communautés ont fait, que ce soit la condition féminine, l'éducation, la santé. Il y a une bureaucratisation. Mm-hmm. La communauté se bureaucratise et je pense qu'on ne peut pas faire autrement que passer par là. Donc, c'est une nouvelle réalité. Moi, je suis moins à l'aise avec cette réalité-là parce que j'ai toujours été animé par le bénévolat. Moi, je n'ai jamais tiré un avantage, je n'ai jamais eu un sou. J'ai donné beaucoup d'argent à la communauté, mais je n'ai jamais été rémunéré, je n'ai jamais eu de gain personnel. Donc, ça a été toujours mon engagement.
C'est votre engagement. La retraite... je sais que plusieurs personnes, d'ailleurs toutes les personnalités, c'est comme ça, on nous court après, on vous a couru après pour vous faire le pas en politique. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous avez refusé.
J'ai eu plusieurs fois des invitations à faire de la politique parce que, évidemment, quand on fait du militantisme et de l'engagement, on est engagé dans la société. Mm-hmm. Ça nous amène vers la politique aussi. Donc, j'ai eu plusieurs invitations. Mais j'ai toujours dit la même chose. Moi, je pense que j'aurais pu faire un bon député, un bon conseiller municipal, mais je ne serais pas capable de faire une élection. Parce que faire une élection, il faut aller solliciter des gens. Mm-hmm. Et il faut aller donner la main à tout le monde, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas. Il faut aller à la fête des mères, aller donner la main aux vieilles dames dans les centres d'accueil. Alors que c'est pas ça, là. Les gens y vont parce qu'ils ont un intérêt politique. Mm-hmm. Et je suis pas capable, moi, personnellement, de vivre de cette façon-là. Il faut que ça soit... je suis entier, il faut que ça soit sincère, intègre, et j'aurai de la difficulté. Donc, j'ai toujours dit, bon, ben si vous pouvez me présenter un poste où j'ai pas besoin de faire des élections, je vais y aller.
C'est ça.
Mais ça n'existe, bon, ça n'existe
ça.
Pas.
C'est encore des vieilles façons de faire qu'on a, mais on en est toujours là.
Il y en a déjà eu qui ont réussi.
À la rencontre des gens. Quoi que les réseaux sociaux nous réussissent à ce qu'on rencontre les gens sans jamais les avoir rencontrés, comme on dit. Comment ça se passe, la retraite?
Pour moi, la retraite, je suis encore assez actif. J'ai plein d'activités.
C'est ça. J'ai pas l'impression que vous êtes dans le salon. Vous bougez toujours autant.
Je travaille actuellement sur un projet qui me tient à cœur. C'est bon, les homosexuels, on n'a pas, pour la plupart, on n'a pas de famille, on n'a pas d'enfants, et beaucoup d'homosexuels se disent, moi, à qui je vais laisser mes biens? À quoi ça va servir? Et je travaille actuellement avec la Fondation du Grand Montréal pour créer un fonds de diversité sexuelle où on va inviter les gens qui veulent de laisser leurs biens à un fonds qui va être dédié, le fonds diversité sexuelle, qui sera administré par la Fondation du Grand Montréal, qui est une fondation qui a vraiment une structure capable d'investir. Et l'originalité, c'est que le capital qu'on laisse est investi et seront redistribués les profits réalisés par le capital. Donc, ça assure une pérennité. Mm-hmm. Et si on veut laisser quelque chose à notre communauté, ben, je trouve que c'est une belle façon de le faire.
De donner au suivant. Oui. Est-ce que vous êtes fier, quand vous regardez votre parcours, en terminant, avant d'aller au jeu questionnaire, de ce que vous avez fait?
Oui, je pense que je suis content de ce que j'ai fait. J'ai décidé de me mettre un peu en retrait depuis un an ou deux. Je vais avoir certaines activités, mais oui, je suis content de ce que j'ai fait.
Est-ce que vous êtes fier de la reconnaissance des Québécoises et des Québécois par rapport à l'homosexualité?
Ah oui, on est privilégié ici au Québec. Je pense que les homosexuels, maintenant, même dans les milieux de travail, il y a des organisations... il faut évidemment être capable de s'assumer. Moi, je dis aux gens, avant de demander aux autres de l'assumer, il faut s'assumer soi-même. Mais une fois qu'on a fait ce pas-là, je pense que les réactions sont de façon très, très large ici au Québec. La très grande majorité des gens nous acceptent bien.
Alors, on fait une petite pause musicale, le temps de répondre aux questions, le jeu questionnaire pour la fin de l'émission. Alors, Laurent McEachin, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Moi, j'ai été inspiré, je dirais, en raison, tout à l'heure, on a parlé de la décriminalisation de l'homosexualité par Pierre Elliott Trudeau. Parce que quand j'étais jeune, j'ai vu Pierre Elliott Trudeau arriver en politique, je l'ai vu se compromettre, dire « moi, je vais décriminaliser l'homosexualité ». Il avait été traité très, très durement et injustement. Il a réussi à prendre le pouvoir et il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, décriminaliser l'homosexualité. Donc, pour moi, ça a été la personne significative dans ma vie.
Vos mentors?
Bien, il y a, vous savez, au Québec, moi, je suis assez politisé. Là. Il y a René Lévesque, il y a Pierre Bourgault. Pierre Bourgault m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Et Jeannette Bertrand, que je connais personnellement, qui a été la première personne au Québec à parler d'homosexualité, d'inviter des gens à faire des émissions, d'en parler, et d'en parler de façon positive.
Et le film remarquable, si je peux me permettre, qu'elle avait fait à Télé-Québec avec M. Labrèche, était un des premiers films, d'ailleurs.
Tout à fait.
Qui traitait de ça, un téléfilm, si on veut, là, parce que c'est plus fait
pour la télévision. Et elle écrit encore, vient de sortir encore un autre roman. Elle est toujours active, notre Jeannette.
Les livres que vous nous recommandez?
Bon, moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est très, très politisé, engagé socialement. Je ne suis pas quelqu'un qui a une très grande culture au niveau des arts. Je lis tous les quotidiens. Le matin, j'ai Le Devoir, j'ai La Presse, j'ai le Journal de Montréal, j'ai le Journal des Affaires, le magazine L'Actualité. Je lis de l'actualité de façon régulière. Par contre, il m'arrive de lire, par exemple, comme Michel Tremblay. Je suis aussi très touché par l'œuvre de Michel-Marc Bouchard. Mm. Michel-Marc Bouchard a fait des choses extraordinaires, dont Les Feuillettes. Mm-hmm. Ça a été, je pense, la pièce de théâtre qui m'a le plus touché, c'est Les Feuillettes.
Vos villes préférées et pourquoi?
Bon, moi, je vis à Montréal. Je pense que Montréal, c'est pas la plus belle ville au monde, mais c'est la ville où il fait bon vivre. Hein, parce que je fais une distinction, moi, je vais à Paris à tous les ans, j'adore Paris. Et je trouve que Paris, c'est beau. Même le soir, maintenant, tout est illuminé. On se promène sur le bord de la Seine et il y a des monuments partout. Donc, j'adore, évidemment, Paris. Quand je viens ici, à l'automne, je me promène dans les cantons de l'Est, dans des petites villes comme Knowlton, Lac-Brome. Je fais la tournée vers Sutton, voir les paysages et tout. Et c'est pas loin, évidemment, d'où j'ai vécu une partie de ma vie dans la région de Beaumont, Green Bay. Je suis originaire des cantons de l'Est.
Merci infiniment. Alors, pour 60 minutes avec vous.
C'est vite passé.
C'est très vite.
Hein? Je vous remercie beaucoup de l'invitation.
Merci pour la retraite. Est-ce que vous avez quand même des projets que vous ne faites pas dans votre métier, c'est-à-dire dans votre militantisme, autre que vous êtes découvert, une passion tout autre?
Je me suis acheté un superbe appareil photo, donc je veux essayer de m'amuser un peu à faire de la photo. Ce ne sera probablement pas des grandes réalisations, mais ça me fera plaisir.
Ah bon, alors donc on risque de vous croiser avec votre appareil photo. Pour les Merci.
Merci.
Alors à mon équipe, un grand merci à la réalisation Kamal Salifou, à la recherche Christiane Campagna. Médias sociaux, Claudia Benoît, c'est Sophie Stanquet qui vous parle. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, mesdames, messieurs. Bye bye.